Et cet après-midi, on va retrouver quelques belles éclaircies. Les températures 4 à 17 degrés.
Merci Anissa Dadi, bon réveil à vous. Bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le mardi 20 janvier, il est 8h.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
La pression est maximale. Donald Trump tente de tordre le bras à Emmanuel Macron. Hier, la France refusait de participer au Conseil de la paix mis en œuvre par le président américain. Riposte ce matin du locataire de la Maison Blanche qui menace le vin et le champagne français de droits de douane XXL portés à 200%. Première réaction à vivre en direct depuis Strasbourg sur Europe 1, où les agriculteurs manifestent aujourd'hui contre le Mercosur. Autre sujet brûlant, le Groenland qui aiguise toujours l'appétit de Donald Trump. Ce dernier annonce une réunion en marge du Forum économique mondial de Davos en Suisse où il se rend à partir de demain. Rendez-vous annuel auquel participe aujourd'hui un Emmanuel Macron affaibli. Et puis jour J pour le 49-3 à l'Assemblée. Adoption sans vote en perspective pour le budget de l'État. Scénario finalement assumé par le Premier ministre Sébastien Lecornu faute de majorité. Votre invité ce matin sur tous ces sujets mais aussi d'autres ce matin. Bonjour Sonia Mabrouk.
Effectivement, bonjour à vous cher Dimitri, bonjour à tous. Après des semaines chaotiques, au final le 49-3. Alors une seule question pour résumer tout cela. Tout ça pour ça, on la posera à notre invité, le député socialiste Jérôme Guedj.
Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le bras de fer entre les États-Unis et l'Europe est-il devenu un duel entre Donald Trump et Emmanuel Macron? Le chef de l'État refuse de laisser Washington s'emparer du Groenland et il a dit non hier au Conseil de la paix fondé par le président américain. Réaction courroucée et menaçante cette nuit de Donald Trump. Écoutez.
Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Personne ne veut de lui. D'ailleurs, il va bientôt quitter le pouvoir. Mais c'est pas grave. S'ils deviennent hostiles, je leur mets une surtaxe douanière de 200% sur ses vins et son champagne. Et là, il adhérera. Mais il n'a pas vraiment besoin d'adhérer. Et s'il a vraiment dit ça, enfin, je ne suis pas sûr qu'il l'ait dit comme vous me le présentez. Mais il aura quitté le pouvoir dans quelques mois.
La diplomatie de la franchise façon Donald Trump avec deux éléments qu'on entend, la tension politique et la menace économique sur laquelle on va d'abord s'arrêter avec vous, Mélina Fachin. Bonjour.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Vous êtes à Ebersheim, à une demi-heure de Strasbourg, où des centaines d'agriculteurs sont réunis ce matin. Ils s'apprêtent à manifester contre l'accord entre l'UE et le Mercosur. Et évidemment, ils réagissent à cette menace de Donald Trump, 200% de surtaxe sur le vin et le champagne français.
Oui, ils ont appris cela il y a une heure et forcément, c'est une très mauvaise nouvelle. Je suis ici avec Maxime Sengler. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Vous êtes viticulteur à Schervillers, ici en Alsace. Vous êtes donc directement concerné par ces menaces de Donald Trump. Comment vous réagissez?
Ben, c'est encore une énième fois la politique mondiale qui assassine notre métier. Hein. Donc cette surtaxe va nous compliquer la tâche pour exporter notre vin dans ce genre de pays qui sont très importateurs de nos produits.
Merci Maxime Sengler. Les agriculteurs ici partent dans une demi-heure à peu près. Rendez-vous devant le Parlement européen à 11h.
Réaction ce matin de Paris qui juge inacceptable les menaces de Donald Trump sur le vin et le champagne pour influencer sa politique étrangère.
Mélina, vous êtes toujours en direct avec nous ce matin d'Ebersheim en Alsace. La colère des agriculteurs, elle est surtout dirigée contre l'accord conclu ce week-end entre l'Union européenne et le Mercosur. Pourquoi les agriculteurs manifestent-ils encore aujourd'hui si le combat est perdu d'avance ?
Eh bien, parce qu'ils ont une dernière carte à jouer. Demain midi au Parlement européen, les eurodéputés vont voter pour ou contre la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne. Si le oui l'emporte à la majorité, la Cour étudiera le Mercosur pour voir s'il est conforme au traité européen. Et pendant ce temps-là, ça peut durer plusieurs mois, voire plus d'un an, l'application du traité devrait être suspendue. En clair, ce qu'espèrent les agriculteurs, c'est un sursis.
Merci Mélina Fachin, correspondante d'Europe 1 en Alsace, en direct d'Ebersheim.
On en revient à ces menaces nocturnes de Donald Trump qui s'en est pris cette nuit à Emmanuel Macron.
Il aura quitté le pouvoir dans quelques mois. Voilà la déclaration du président américain, vous l'avez entendu tout à l'heure sur Europe 1. Donald Trump qui dans le même temps publie sur son réseau Truth Social ses échanges de messages avec le président français. Emmanuel Macron lui a proposé un dîner à Paris et une réunion du G7 sur le Groenland jeudi. Réunion confirmée par Donald Trump, mais pas à Paris, ce sera à Davos en Suisse.
Oui, en marge du Forum économique mondial auquel Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui.
Le chef de l'État va en effet s'exprimer à la tribune avec deux objectifs, Arthur Delaborde, défendre la solidité de la France et l'unité de l'Europe.
Donald Trump arrive à Davos avec une idée simple. Le monde ne fonctionne plus par les règles, mais par la puissance. Pour lui, la mondialisation coopérative est terminée. Nous sommes entrés dans un monde de blocs, de rivalités. Et les États-Unis doivent rester aux commandes. Le Groenland s'inscrit dans cette logique. Sa prise de contrôle n'est pas une provocation, c'est un calcul stratégique. Ressources minières critiques, position clé face à la Russie et à la Chine. La venue à Davos du président américain est un message en soi. Il s'impose avec la plus grande délégation américaine jamais envoyée dans la station suisse. 5 ministres et la vitrine complète de la puissance économique américaine. Davos, une scène pour promouvoir sa méthode. Accès au marché américain contre implantation locale. Droit de douane comme levier. Rapport de force comme langage. C'est une doctrine. Là où l'Europe parle de règles, Donald Trump parle d'efficacité.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05.
À la une également ce matin, le volet recette du budget de l'État en passe d'être adopté ce mardi au forceps.
Oui, le Premier ministre l'a annoncé hier soir. Il va déclencher aujourd'hui l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. La réaction des oppositions ne s'est pas fait attendre. L'ERN et LFI vont déposer une motion de censure. La question se pose donc, Alexis de La Fontaine, le gouvernement peut-il être à nouveau renversé ?
Eh bien, selon les derniers décomptes d'Europe 1, Sébastien Lecornu devrait rester en poste. Seulement 275 députés sur les 289 nécessaires devraient voter la motion de censure. Grâce à ces dernières concessions, comme la hausse de la prime d'activité, le repas à 1 euro pour tous les étudiants ou la création d'une taxe exceptionnelle sur les grandes entreprises, le Premier ministre s'est assuré le soutien du Parti Socialiste. À droite, la pilule reste difficile à avaler pour les Républicains, car Sébastien Lecornu n'a pas respecter les lignes rouges présentées par Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez qui réfléchit encore à censurer le gouvernement. Pour Bruno Retailleau, cela ne fait aucun doute. Ce budget va causer de la dette en plus, des emplois en moins et un pouvoir d'achat en berne pour les Français. Mais selon les informations d'Europe 1, les Républicains devraient finalement ne pas voter la motion de censure car ils souhaitent passer à autre chose. Je préfère adopter ce budget qu'une nouvelle crise politique, conclut un député de droite.
Alexis de La Fontaine.
Au Sénat, la reprise des discussions aujourd'hui sur le sujet sensible de la fin de vie.
Le texte a été remanié en commission prévoyant des conditions d'accès au suicide assisté plus strictes. Mais le docteur Ségolène Perrucchio, présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, le répétait ce matin sur Europe 1. Le problème reste entier car donner la mort n'est pas un soin. Et si des clauses de conscience sont prévues pour ceux qui s'y opposent, elles ne concernent pas tous les professionnels, Yasmina Katou.
Oui, seuls les médecins, pharmaciens, psychologues pourraient faire valoir leur clause de conscience et pourraient refuser de participer à une procédure de suicide assisté. Mais le reste du personnel, comme les aides-soignants ou les directeurs d'établissement, n'auraient pas la possibilité de s'y opposer. Pour respecter la loi, les directeurs d'établissement se retrouveraient dans des situations complexes. François-Xavier Lejeune, directeur des établissements de soins de l'association Notre-Dame de Bon Secours.
Demain, moi, directeur, je dois ouvrir la porte à une équipe qui viendra pratiquer l'euthanasie ou l'aide au suicide. Lorsque la personne aura été accompagnée dans son suicide, la question se posera par exemple de la toilette funéraire. Quels seront les soignants qui viendront auprès de la personne les obliger à y participer? C'est renier leur vocation.
Un refus de la part des équipes serait passible d'un délit d'entrave, 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Cette mesure a été supprimée par les sénateurs, mais risque de revenir dans le débat à l'Assemblée. Pour éviter des démissions de personnel, François-Xavier Lejeune appelle à la mise en place d'une clause de conscience collective qui permettrait à tous d'exprimer un choix en accord avec ses propres valeurs.
Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1. Le tennis, l'Open d'Australie, Giovanni Pecci-Perica et Hugo Humbert défaits ce matin dès le premier tour. Gaël Monfils est mené en ce moment 2-7-1 face à l'Australien Dane Sweeney. Et puis en football, la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain se déplace ce soir à Lisbonne face au Sporting Portugal.
Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. J'ai quelques instants pour vous donner le programme de vos signatures Europe 1 à partir de 8h30 avec Eugénie Bastier. On viendra sur le budget qui est en passe d'être adopté, budget gérontocratique. On privilégie les retraités sur la jeunesse, nous dira Eugénie Bastier. Et puis on parlera du saumon, l'industrie du saumon. La France est le plus grand domaine maritime, deuxième plus grand domaine maritime du monde. 90% des poissons que vous mangez, eh bien, ils sont importés, ils viennent de l'étranger. On va voir ça. Dans un instant, votre invité politique, le député PS de l'Essonne, Jérôme Guedj, est face à Sonia Mabrouk. Bon réveil avec Europe 1.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Bonjour, c'est Christine Kelly. La liberté d'expression, vous l'entendez sur Europe 1, en direct et sans langue de bois.
Christine Kelly et vous, du lundi au jeudi, de 11h30 à 13h sur Europe 1.
La radio libre.
PFG sera toujours à vos côtés. Alors en cas de décès, appelez PFG au 3012 pour une prise en charge immédiate de jour comme de nuit. Urgence décès 3012, un service PFG.
Préparez-vous à voir toujours plus de matchs, toujours plus de buts incroyables, toujours plus de clubs réunis pour un même frisson. Avec Canal+, préparez-vous à vivre toujours plus d'Europe. Retrouvez l'intégralité de l'UEFA Champions League sur les chaînes Canal+. Avec ce soir à 21h, Sporting Portugal Paris SG sur Canal+ Foot et Real Madrid AS Monaco sur Canal+ Sport. Suivi demain à 21h d'Olympique de Marseille Liverpool sur Canal+. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Peugeot.
Ah, tu l'as enfin changé ton utilitaire.
Oui, neuf, bien équipé et sans apport.
Sérieux ? Même pas d'apport ?
Zéro, juste des mensualités claires. Je garde ma trésorerie pour mon activité, pas pour mon véhicule.
Avec Peugeot, démarrez l'année sans compromis. Une flotte moderne, votre trésorerie préservée et maintenant jusqu'à 8 ans de garantie. Jusqu'au 31 janvier, le Peugeot Partner est à partir de 235€ hors taxes par mois, sans aucun apport.
Crédit bail 60 mois, 50 000 km sans apport pour un partenaire, réservé aux professionnels sous réserve d'acceptation crédit par. Garantie Peugeot Care, conditions sur Peugeot.fr.
Bureau Vallée, t'as fini la liste pour Bureau Vallée, j'y vais.
Pas besoin, il livre.
Ah oui, top.
Fourniture de bureau, papeterie, mobilier, informatique ou cartouche d'encre, c'est Bureau Vallée.
Envie de marque, de prix bas toute l'année, de service pro et d'un vrai accompagnement, c'est encore Bureau Vallée.
Bureau Vallée, 320 magasins partout en France, des prix bas. Et en plus, c'est la meilleure enseigne de papeterie, fourniture de bureau 2025 et 2026.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Palmarès Capital selon enquête Statista. Détails sur bureau-vallée.fr.
Dans la vie, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut débattre. Des sujets qui divisent, qui rassemblent ou font réfléchir. Mais la santé, elle, ne devrait pas faire débat. Pourtant, aujourd'hui, elle reste un enjeu pour beaucoup. Alors chaque jour, le groupe Vive agit pour que vous soyez bien soignés, bien protégés et bien logés.
Parce que la santé est un droit, le groupe Vive, groupe mutualiste de santé et de protection sociale, agit grâce à ses mutuelles et à son réseau d'établissements de soins et de logements pour que personne ne soit laissé de côté. Groupe Vive, pour une santé accessible à tous. Groupe Vive, organisme régi par le code de la mutualité.
Ça ira, chez Citroën, nous on ira. Ça ira, nous ce qu'on veut, c'est des prix bas.
Pendant les journées révolutionnaires, profitez de prix canon sur tous nos modèles Citroën chez l'un de nos 1300 agents partout en France.
Ça ira, des journées comme ça, on attendait que ça.
Citroën. Offre valable jusqu'au 31 janvier dans le réseau d'agents participants.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Lorsque vous voyagez avec Cathay Pacific, nous ne perdons jamais de vue la qualité de votre expérience. Vous n'aurez donc pas de compromis à faire lorsque vous profitez de nos offres. Bénéficiez de tarifs réduits sur nos destinations Asie et Australie. Les offres Cathay Pacific, allez à l'essentiel.
Toyota. Production française qui se vend chaque année comme des petits pains. On dit que je suis fantastique. Je suis...
La baguette ? Le croissant ? Non, la Toyota Yaris Cross Hybride.
Oui, c'est la voiture la plus produite en France.
Et elle n'a jamais été aussi accessible. Pendant les reprises fantastiques, la Toyota Yaris Cross Hybride est à partir de 239€ par mois, entretien inclus. Yaris Cross Hybride dynamique blanc pur à partir de 239€ par mois, LLD 37 mois, 30 000 km, entretien inclus. Premier loyer, 4390€, réservé aux particuliers dans le réseau participant jusqu'au 2 février sous conditions de reprise. Détails sur toyota.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
La grande interview Europe 1 CNews, Sonia Mabrouk.
La grande interview sur CNews et Europe 1, mon invité ce matin est le député socialiste Jérôme Guedj. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Merci de votre présence. Alors essayons de résumer la situation politique qui est la nôtre. Le gouvernement va donc passer M. Guedj en force en imposant le budget sans vote via le 49-3. Le tout en sauvant sa tête grâce à la clémence, la non-censure du PS. Au final, Parlement contourné, budget décrié, Français jamais consulté. Est-ce que vous êtes satisfait ?
Je suis pas satisfait du fait qu'il y ait un recours au 49-3. Parce que c'est pas l'outil qui atteste d'une maturité démocratique. J'aurais préféré que sur ce budget, on puisse faire ce qui s'est passé sur le budget de la sécurité sociale. Parce qu'il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Le Premier ministre s'était engagé à notre demande, je le reconnais, à se dispenser du recours au 49-3. C'est-à-dire à cet outil qui, lors des précédents gouvernements, rappelez-vous quand Elisabeth Borne le dégainait tous les trois jours, si j'ose dire, il n'y avait même pas de discussion de la totalité des articles d'un budget. Le fait qu'il n'y ait pas eu cette épée de Damoclès a permis au débat de se dérouler à l'Assemblée nationale. Pour la première fois, on a même fait une seconde lecture, ce qui n'était pas arrivé depuis avant 2022. Et ça a permis de voter le budget de la sécurité sociale. Donc ça a été utile de renoncer au 49-3. Simplement, l'intransigeance d'un certain nombre de groupes politiques à l'Assemblée nationale a fait que la logique du compromis que nous, socialistes, avons accepté
compromis ou compromission,
de mettre en œuvre.
Mascarade plutôt, M. Gage.
Écoutez, quand on débat, quand on dialogue, écoutez, rien que ça. Rien que le fait de discuter, de sortir du confort de la posture qui consiste à dire « j'ai raison tout seul ». Moi, j'ai la lucidité de voir ce qu'est la réalité de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de majorité. Et donc, c'est vrai que c'est confortable de se dire « eh ben, il faut renverser le gouvernement, il faut une dissolution, il faut une démission du président de la République ». Sauf qu'en attendant, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y avait pas eu cette négociation, le gouvernement aurait imposé, par ordonnance ou par un 49-3, des mesures injustes.
Bien.
Et moi, sur le fond, parce que là, on a parlé du tuyau, le 49-3, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ce budget a évité les mesures les plus injustes sur nos concitoyens.
Je vais y venir, mais la tuyauterie, si je puis dire, est importante, parce qu'elle engage vos promesses, quand même. Je vais rappeler que Sébastien Lecornu avait promis de renoncer au 49-3, et surtout pour vous. Pour vous, Jérôme Gage, pour le Parti Socialiste, c'était un motif de censure. C'était une ligne rouge qui est devenue jaune, qui est devenue ensuite sans couleur et sans saveur. Comment vous expliquez ce matin à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, votre changement de pied?
Je viens de vous le dire avec honnêteté. Le fait qu'il n'y ait pas eu de 49-3 dès le début du processus a permis d'engager cette discussion. Et, je le dis sincèrement, de réaliser cet apprentissage de quelque chose qui est étranger à la culture française.
La béquille du macronisme ?
Non, c'est pas ça. C'est une culture de compromis qui est nécessaire quand il n'y a pas de majorité. Le jour où il y aura une majorité à l'Assemblée nationale, eh bien, on reviendra à une majorité qui décide toute seule et une opposition qui joue son rôle en espérant l'alternance à l'élection d'après. Aujourd'hui, il n'y a pas de majorité. Et donc, cet apprentissage du compromis qui est très étranger à la tradition française, on l'a fait sur le tas. Ça a été chaotique, ça a été parfois un peu foutraque, je le reconnais, mais on a posé des graines pour quelque chose, je le dis, qui nous servira durablement dans la vie politique française. Alors, parce que je pense que dans la vie politique française, faut qu'on sorte de cette tyrannie de la majorité.
Dans la vie politique française, les oppositions peuvent s'opposer. Elles peuvent vouloir une motion de censure. Elles peuvent même vouloir renverser un gouvernement sans être des agents du chaos ni des saboteurs en chef. Pourquoi vous semblez accuser le RN et LFI d'être des agents, finalement, de la déstabilisation?
Mais parce que, quelle est l'alternative attendue? Le fait qu'il n'y ait pas de budget avec la fragilisation.
Retourner aux urnes.
Je vais y venir. Mais d'abord, regardons la situation dans laquelle on est. Le fait qu'il n'y ait pas eu de budget avant le 31 décembre, c'est qu'on est aujourd'hui sous un dispositif de loi spéciale qui est extrêmement fragilisateur pour les entreprises, pour les associations, pour les collectivités locales, pour les ménages. Non, il ne faut pas que ça dure. Parce que durer, c'est reconduire, par exemple, les dispositifs fiscaux de l'année dernière et empêcher les moyens qui doivent être dégagés pour un certain nombre de services publics. Et puis j'ajoute un argument, on va probablement parler tout à l'heure de situation internationale. La loi spéciale, c'est l'impossibilité de mettre en œuvre ce qui a fait consensus à l'Assemblée nationale, qui est le renforcement des moyens de la défense nationale, et notamment sur les deux années qui viennent,
6,5 milliards. On peut l'entendre.
C'est pas du chantage, non.
Vous reprenez d'ailleurs les mêmes éléments que le Premier ministre.
Mais écoutez, il y a eu un débat qui a été organisé pour partie à notre demande sur les enjeux de la politique de défense. Et on a constaté, et moi je m'en félicite, qu'il y a un consensus à l'Assemblée nationale très large, plus de 450 députés, je crois, qui ont soutenu la déclaration, enfin le débat sur les politiques de défense, sur la nécessité de doter nos armées de moyens supplémentaires. Voyez-vous, la semaine dernière, j'étais à l'OTAN pour parler des sujets de défense. Oui. Dans quelques jours, je pars à Djibouti, aux côtés de nos forces projetées à l'étranger. Si nous n'accompagnons pas l'effort de défense nécessaire dans notre pays, nous fragilisons la voie de la France et de l'Europe sur le pays.
Je pense que tout le monde veut accompagner cet effort, mais je vous repose la question. En quoi vous n'êtes pas la béquille du macronisme? Et je vais ajouter quand même quelque chose. Pourquoi vous avez si peur de retourner aux urnes?
Mais alors, moi, je n'ai peur à aucun moment de retourner aux urnes.
Ne dites pas que le Parti Socialiste ne craint pas la disparition,
Nous y sommes allés, et au contraire, dans la période, nous avons affirmer une singularité des socialistes à l'intérieur de la gauche avec l'affirmation de la voix que je porte avec d'autres, qui est celle d'une gauche républicaine, laïque, universaliste, exigeante sur les questions sociales,
détachée
de la France insoumise.
Ça, c'est vous.
Et c'est aujourd'hui, d'une certaine manière, j'ai été avec d'autres lanceurs d'alerte, la position sur laquelle le Parti Socialiste se réaffirme aujourd'hui. Donc, le suffrage universel, nous n'en avons jamais peur. Mais aujourd'hui, lucidement, s'il y avait une dissolution et des élections dans 20 jours, vous croyez que à l'issue, on aurait une majorité claire? Le grand rendez-vous démocratique, c'est l'élection présidentielle de 2027. Préparons-le avec la sérénité nécessaire, avec la confrontation des idées. Et le peuple français tranchera et nous respecterons son choix
en 2027. Et la vérité à certaines questions. Qui va financer toutes les mesures sur lesquelles il faut bien reconnaître que vous avez eu gain de cause? Ce sont d'ailleurs les mesures que vous avez soufflées à l'oreille du Premier ministre. Qui va les payer? Parce que personne ne croit que c'est l'État qui paye. Derrière chaque entreprise, ce sont des Français. Savez, c'est nous qui allons payer, monsieur Gadge.
Alors, c'était un des éléments de la discussion que nous avons mis sur la table. Nous souhaitions de la justice sociale, c'est-à-dire des mesures qui préservent l'essentiel des Français, les classes moyennes, les classes populaires. Je vous prends un seul exemple. Dans le budget initial, il était proposé une augmentation des impôts pour tous les ménages à travers le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Le fait d'avoir obtenu qu'il n'y a pas ce gel, ça va éviter à 200 000 ménages de rentrer dans l'impôt sur le revenu et à tous d'avoir une augmentation.
Vous voyez le verre à moitié plein, je vais parler du verre à moitié vide.
Je vous parle de la justice sociale, c'est aussi de soutenir le pouvoir d'achat.
Elle s'applique aussi aux entrepreneurs.
C'était une autre demande. Mais je vais en parler dans une seconde des entrepreneurs. Simplement, il faut avoir la vision d'ensemble. La priorité que nous avons mise sur la table, c'est face au déficit, qui est le fruit de la politique économique menée depuis ces 7 ou 8 dernières années, il était exclu que ce soit toujours les mêmes, le plus grand nombre des Français qui contribuent eux seuls à cet effort. C'est ce qui a fait qu'on a obtenu, par exemple, sur le budget de la sécurité sociale, qui est pas la fameuse année blanche, celle qui avait été prévue initialement, qui était on va geler les pensions des retraités, les prestations sociales,
les entrepreneurs en colère.
Plutôt le parti d'aller chercher sur ceux dont on a estimé qu'ils étaient plus en possibilité de participer à cet effort. Les grandes entreprises et les hauts patrimoines faisaient partie de ceux dont nous considérons qu'ils peuvent le faire.
C'est un effort
de patriotisme économique pour des entreprises qui ont
j'entends pour les grandes entreprises, mais c'est alourdi pour les entrepreneurs. Vous savez bien que derrière chaque entreprise, il y a des Français. On va
mais
payer.
Je suis
plus personne ne croit que c'est l'État
qui paye,
que ce sont les entreprises seules qui payent.
Attendez, aujourd'hui, dans la hiérarchie des priorités, moi, le commerçant, l'artisan, la PME, celle qui bosse dur et qui, je le dis, paye proportionnellement plus d'impôts que la grande multinationale installée en France. Moi, je suis abasourdi à chaque fois que je discute avec un patron de bar tabac qui me dit que lui, ce qu'il va payer comme impôt, en proportion de son bénéfice, c'est plus important que le Starbucks du coin qui, parce qu'il optimise, il suroptimise, il localise son activité en Irlande ou dans un autre pays européen, va payer moins d'impôts en France. Donc cette lutte contre ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, la justice fiscale qui consiste à dire à ces 300 très grandes entreprises qui vont être soumises à cette surcotisation d'impôts sur les sociétés, que peut-être en contrepartie. Peut-être en contrepartie, elles vont verser un peu moins de dividendes cette année. Elles ont versé 100 milliards de dividendes l'année dernière. Donc nous assumons, ça s'appelle la justice fiscale, pour protéger le plus grand nombre de nos concitoyens. Et moi, je suis content qu'on augmente la prime d'activité, c'est du pouvoir d'achat. Et c'est des gens qui vont pouvoir consommer. Ça soutient la demande pour de nos
également
entreprises.
À vos électeurs
et évidemment, des mesures de type le repas à 1 euro pour les étudiants.
Voilà. Pendant ce temps, il faut qu'on parle de la scène mondiale, ce qui s'y passe.
Oui.
Donald Trump qui menace directement la France et nos vins et champagne tricolores de... Il faut se rendre compte, 200% de droits de douane, là on est dans l'XXL des droits de douane, parce qu'Emmanuel Macron ne veut pas, semble-t-il, participer à une initiative d'un conseil de paix à l'initiative du président américain. Le tout se télescope avec le dossier du Groenland. Est-ce que les Européens vont pouvoir résister vraiment à Donald Trump? Est-ce que vous y croyez?
Ils n'ont pas le choix, Madame Mabrouk. Ils n'ont pas le choix. Il y a un an, jour pour jour, Donald Trump, qu'on voit à l'image, prenait ses fonctions à la Maison-Blanche. Et le monde est devenu sans dessus, sans dessous. C'est-à-dire ce qui était les fondamentaux à la fois des relations commerciales, des relations diplomatiques et des relations militaires sont balayés par l'ego, et je pèse mes mots, par l'ego d'un homme qui aurait pu imaginer, vous avez vu la lettre adressée hier
tout le monde,
par Donald
Trump. Il l'a dit il y a un an. Depuis un an, il dit qu'il veut s'emparer du Groenland.
Non,
tout le monde aurait pu s'imaginer, sauf qu'on est resté, et peut-être vous-même, les Européens, tétanisés, figés.
Non, mais là où vous avez raison, c'est que, c'est pour ça que je disais que nous n'avons pas d'autre choix que de tenir tête. Parce que, au bout du bout, la seule chose qui reste, c'est vrai en politique intérieure comme en politique internationale, c'est l'adhésion et la fidélité à des principes et à des valeurs.
Lesquelles?
On a un homme qui, remet en question...
Monsieur Trump s'intéresse aux terres rares, hein, au Groenland.
On a un homme qui met à l'intérieur de son pays en péril l'état de droit et à l'extérieur les principes du droit international. Aussi insuffisant soit-il, aussi balbutiant soit-il, mais on ne peut pas s'en remettre
le droit
à une seule logique,
Monsieur Gage,
à une seule logique de rapport de force.
Qu'ont fait les Danois pour le Groenland? Les Danois qui achètent, américains. Où est la préférence européenne? De quelle Europe parlez-vous? Celle qui achète américain?
Mais vous avez parfaitement raison.
On va avec un pistolet à eau.
Les États-Unis ont imposé, mais nous y étions consentants depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'idée d'un partenariat stratégique dont nous aurions pu prendre la mesure du fait qu'il allait déclinant. C'est pas de Donald Trump que a commencé le retrait ou le mouvement de retrait en Europe. Dès Barack Obama, nous avions des signaux d'une réorientation de la politique internationale américaine vers la zone Indo-Pacifique. Et la faute des Européens collectifs est d'avoir eu la naïveté de penser que ceci n'arriverait pas. À marche forcée aujourd'hui, dans l'adversité, il faut construire cette solidarité européenne, approfondir la défense européenne et l'autonomie stratégique et aller dans un rapport de force dont il faut qu'on dise à nos concitoyens qu'il aura des conséquences sur leur propre mode de vie. Si nous devons résister à Donald Trump, regardez, le président de la République, Emmanuel Macron, à juste titre, a dit que si la surenchère se poursuivait, alors il faut qu'on active les dispositions qui existent. C'est les clauses dites anti-coercition. Rendez-vous compte, qui avaient été créées en Europe, qui n'ont jamais été activées, en pensant à la Chine. Et on va devoir peut-être l'activer. Face à un allié historique.
Alors, quelles conséquences pour nous, très concrètement, ceux qui nous regardent et nous écoutent ce matin?
Je vais dire des choses un peu provocatrices. Est-ce que les Français sont prêts à admettre un jour que Netflix pourrait être fermé sur le territoire français comme mesure de rétorsion pour l'ingérence? Parce que c'est ça les motivations.
Vous parlez de valeurs qui semblent, parler d'un absolu.
Ça peut paraître anecdotique, mais l'idée de se dire que, plutôt que d'être dans cette surenchère commerciale qui vient fragiliser, là aujourd'hui, ce sont les producteurs du luxe, du vin, du champagne, qui sont menacés, mais qui sont des tissus économiques essentiels dans notre pays. Nous avons 65 milliards d'exportations de la France
vers les États-Unis. Vous êtes en train de dire, attention à la guerre commerciale que nous allons mener.
Je vous dis que si nous décidons de la mener, alors il faut que nous assumions les conséquences.
Mais on y va avec quelle armure? Avec combien de divisions?
Avec celle qu'il faut construire. Pour l'instant, on a la juxtaposition.
Les Allemands sont en train de partir. L'Italie de Meloni, elle n'est plus très sûre de ce qu'elle dit
Vous avez parfaitement raison. Mais vous savez, c'est le moment où la singularité française, celle qui est l'héritage d'un gaullisme dans les relations internationales, d'une capacité de dire nous pouvons être alliés sans être alignés, et surtout refuser ce qui est aujourd'hui, la chose terrible, ce n'est plus un partenaire, c'est un parrain au sens mafieux du terme, demande au pays de venir baiser la bague du parrain et de prêter allégeance.
Monsieur Trump est à la tête des États-Unis d'Amérique.
Une logique mafieuse, oui. Je le dis, celle qui consiste à dire...
Vous ne l'avez pas dit sur d'autres dirigeants. Je le remarque, parfois on a eu des relations paroxystiques.
Lesquelles, je peux vous dire la même chose de Vladimir Poutine quand il décide. Mais vous savez, quand vous remettez en cause la souveraineté des pays, quand Donald Trump aujourd'hui ne dit rien d'autre de différent qu'un Vladimir Poutine qui dit les frontières ne sont pas une logique intangible et je peux envahir l'Ukraine, et que Donald Trump, dans un caprice d'ego, vous vous rendez compte qu'on a aussi cette difficulté quasi psychiatrique d'un président de la République qui dit parce que vous avez...
Il faut psychiatriser,
président qui dit vous avez refusé de me donner le prix Nobel de la paix en s'adressant au Premier ministre norvégien et donc par conséquent je revendique la souveraineté sur votre pays, je ne sais pas qualifier autrement que dans une irrationalité qui devrait réellement nous préoccuper parce qu'elle menace la souveraineté des pays, l'équilibre international et cohésion de chacun des pays.
Oui. Nous parlons là de valeurs au sens large. La valeur pour la liberté, contre aussi certains mots à Maux, notamment l'antisémitisme. Je voudrais revenir à l'Assemblée nationale, parce qu'à ce sujet, il y a une proposition de loi visant, je cite, à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme, qui est portée par la députée Caroline Yadan. Elle est examinée là aujourd'hui par la commission des lois à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous la soutenez, si je puis dire, totalement et sans aucune ambiguïté?
Moi, l'intention portée, c'est la raison pour laquelle, initialement, j'ai signé cette proposition de loi avec quelques autres députés socialistes, dont François Hollande, pour que l'alerte qui est lancée, qui est de dire il y a des formes nouvelles d'antisémitisme, une explosion des actes dans le pays qui ont été constatés, et qu'il faut affirmer l'intransigeance de la société tout entière pour ceux qui... vous savez, moi je me suis fait sortir de manifestations en me disant « sale sioniste ». Et dans le visage de ceux que j'avais en face de moi, je savais qu'ils voulaient me dire autre chose que « sale sioniste ». Simplement, il voulait me dire sale juif. Je l'ai entendu, et je l'ai vu, et parfois même je l'ai entendu. Et donc, la possibilité de mettre le lien entre antisionisme et antisémitisme est quelque chose qui va dans la bonne direction, avec des garde-fous qui sont nécessaires.
Vous les connaissez, parce que vous disent
je termine ma phrase. Le texte initial de Caroline Yadan avait des imprécisions juridiques qui ont été pointées par plusieurs observateurs en sincérité. Et il y a eu la sagesse de la présidente de l'Assemblée nationale de solliciter l'avis du Conseil d'État qui a, ce qui est rare pour une proposition de loi, procéder à une expertise juridique du texte et qui a donné des indications de modification. Caroline Yadan nous a fait savoir qu'elle allait reprendre in extenso toutes ces observations juridiques qui lèvent les inquiétudes parfois légitimes de ceux qui pensaient qu'à travers un texte de cette nature, on allait plus être dans la possibilité de pouvoir critiquer tel ou tel. Moi, je critique Benjamin Netanyahou. Et ça fait pas de moi un antisioniste et a fortiori pas un antisémite. Donc, la possibilité de critiquer. Quand Smotrich ou Ben-Gvir venaient à Paris, je suis allé manifester contre eux et personne ne me suspectait d'une complaisance à l'endroit d'un régime et d'un système politique ou d'un gouvernement en place actuellement que je condamne. Donc, en revanche, l'idée selon laquelle on peut de manière tranquille remettre en question l'existence même d'un État, et c'est ça qui désormais peut être sanctionné,
cette proposition
ça c'est quelque chose qui est attentatoire à ce que je pense être la qualité du débat démocratique. Bien. Donc faisons-le de manière apaisée. Faisons-le en se disant
que... Sur un tel sujet, nous verrons comment ça va se passer au Parlement.
Si on est tous d'accord pour lutter contre l'antisémitisme sous toutes ses formes...
Vous pensez que tout le monde est d'accord au Parlement ?
Rassemblons-nous et n'invoquons pas...
Vous pensez que tout le monde est d'accord, monsieur
Guedj ? Non, mais attendez, je le redis. On peut défendre la cause palestinienne et ne pas verser dans des expressions qui remettent en cause l'existence de l'État d'Israël et qui parfois viennent pointer et stigmatiser les Juifs partout dans le monde.
Dans l'actualité, là encore, je vais rester au Parlement puisqu'il y a la reprise des auditions dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public dans un contexte tendu. Le rapporteur Charles Alonque affirme qu'on ne le bâillonnera pas, qu'on ne le censurera pas. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que, selon vous, on a voulu étouffer cette commission ?
Écoutez, je vais d'abord vous dire une chose, parce que j'en ai un peu par-dessus la tête de ces commissions d'enquête spectacle d'un théâtre. Je vous le dis sincèrement, et elles sont...
Moi, j'ai le souvenir, vous avez participé à une commission où vous nous avez interrogés avec
mes confrères Pascal Praud et Laurence Ferrari. J'ai essayé de le faire avec la rigueur nécessaire à une commission d'enquête.
Oui, il faut vous le reconnaître.
Mais le résultat, c'est quoi ? C'est qu'on a un spectacle permanent, on fait des coups. Rigueur nécessaire à une commission d'enquête.
Oui, il faut vous le reconnaître.
Mais le résultat, c'est quoi ? C'est qu'on a un spectacle permanent, on fait des coups, on fait des vignettes sur son téléphone portable pour pouvoir les poster et... On ne fait pas le rôle du parlementaire qui est celui d'alimenter le contrôle de l'action du gouvernement et d'améliorer sur les sujets. Tout ça ne va déboucher sur rien. Je pense qu'il y a des manières plus intelligentes de poser des questions qui sont légitimes. L'audiovisuel public, comme toute
c'est
politique...
C'est pas assez intelligent, les questions sur la transparence,
non, mais attendez,
sur le financement du service public.
Oui, mais
public.
Vous voyez bien que les excès dans la manière de... Moi, je plaide en politique pour ce que j'appelle le courage de la nuance. La capacité d'être audible parce que on est respectueux de ceux avec lesquels, y compris, on a des désaccords. Et cette espèce de brutalisation, de clivage permanent dans le débat public, pour moi, ça me pose de grandes difficultés. Ceux qui sont là plaident... Bon. Et défendre l'exemplarité de ceux qui sont aux responsabilités de l'audiovisuel public. Eh bien, que les parlementaires eux-mêmes soient exemplaires dans la manière de construire les choses qui sont dans le débat aujourd'hui.
On va conclure, l'important c'est la liberté.
Écoutez, l'important c'est la liberté dans le débat, mais voyez-vous, et j'en profite, j'avais pas prévu de le faire Sonia Mabrouk, mais vous parlez d'exemplarité, vous savez, je viens avec plaisir sur votre antenne à chaque fois, parce que même si je suis pas d'accord avec tout ce qui peut s'y dire
depuis
ici,
toujours.
Moi je suis, comme je viens de vous le dire, un partisan du débat, de la dispute apaisée. Mais aujourd'hui, parce qu'on parle d'audiovisuel public, je vais vous parler d'audiovisuel privé. Et je veux, pardon, dans une inversion des rôles, et vous me direz ce que vous en pensez, mais vous posez une question à vous. Aujourd'hui, vous vivez le fait que Jean-Marc Morandini soit maintenu sur l'antenne de votre groupe, alors même qu'au nom de l'exemplarité, au nom de l'exemplarité nécessaire, vous aviez dit, les dirigeants de ce groupe dans le passé, que le jour où la condamnation définitive serait prononcée, et ça a été le cas pour un motif qui était important en termes de valeur, en termes de principe, la corruption de mineurs.
J'entends.
Et donc, vous voyez, donc moi, je n'aime pas les gens qui, à la fois, peuvent dire on est donneur de leçons, et donc je suis heureux, en tous les cas, intéressé de savoir quelle est la position d'une femme libre comme vous face à quelque chose qui, en termes de valeur, doit forcément interroger.
Bon, en tout cas, votre question, elle est parfaitement légitime, Jérôme Guedj. Moi, je voudrais d'abord dire, et je ne vais pas me défausser, que la décision de maintenir Jean-Marc Morandini, c'est une décision qui m'appartient pas. C'est la direction de CNews qui a assumé cette décision par fidélité, semble-t-il, à son égard. Vous parlez d'une femme libre. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ma direction. pour ma direction, pour ma hiérarchie. Mais en aucun cas, ça ne vaut de cautionner cela. En aucun cas, c'est une complaisance morale par rapport à ce dont nous parlons et qui est d'une gravité réelle. Ça a été jugé par la justice française. Il reste la justice européenne. Bah, je ne vais pas me substituer à la justice. Je voudrais simplement dire qu'il n'a pas été condamné pour ne plus exercer sa profession sur CNews. Mais puisque vous m'interpellez, moi, CNews, c'est ma chaîne de cœur. Je vous remercie de venir, mais c'est ma chaîne de cœur. Et vous savez, je vais vous le dire avec le cœur. Je suis une femme libre, moi je suis une citoyenne, je suis une mère de famille et je suis personnellement engagée dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Je pense ce matin, et comme vous, et avec vous, aux victimes, quelles qu'elles soient, et aux victimes les plus jeunes, je pense aux mineurs. On ne peut pas nous faire ce procès, on ne peut pas me faire ce procès. Je vais vous dire, Jérôme Gage, vous êtes père de famille, je suis mère de famille, je suis mère d'une petite fille, je vais être mère d'un petit garçon dans quelques semaines et dans quelques mois, moi, les seules valeurs, quelles que soient nos différences, quelles que soient les convictions politiques qu'on nous prête, les seules valeurs sont les valeurs de respect de chacun, de la dignité de chaque personne. Et je le dis droit dans les yeux, vraiment, de la sanctuarisation de l'intégrité physique et morale de chacun. Ça, c'est pas négociable. Ça, c'est pas à géométrie variable. Ça, c'est ma seule boussole personnelle et professionnelle. Et j'ai la liberté de le dire, comme vous le dites, comme une femme libre, mais aussi parce que CNews, c'est la chaîne de la liberté d'expression et c'est l'expression que je vous donne ce matin.
C'est louable de pointer l'importance des valeurs. Ça illustre aussi le fait que nous sommes chacun traversés par des contradictions dans la manière de les incarner et de les faire vivre. Et donc, la meilleure des choses dans cette nuance à rechercher, c'est de dire les choses, c'est de ne jamais les taire, d'avoir le courage de dire la vérité. C'est
pour ça que je vais vous poser
cette question. Parce
je ne supporte pas que l'on
propre
s'ajouter sur
moral.
Toute une rédaction voilà. Qui est exceptionnelle. Oui. Je parle en mon nom ce matin, je n'avais pas prévu que vous alliez me solliciter. Votre question est légitime. J'avoue
que
je n'endors pas depuis plusieurs jours.
Moi, je me suis posé la question avant de venir sur votre plateau. Parce que j'avais jusque-là des désaccords parfois vifs avec certaines des choses qui peuvent se dire sur cette antenne. Mais j'assumais le fait de venir porter sinon une contradiction, mais dans la qualité. Mais là, on touche à quelque chose de quasi identitaire.
Mais je vous ai dit
comme
les
vous
choses.
Comme vous l'avez présenté. Et peut-être
c'est
que
ma
ça
seule
vaut
boussole.
Le coup de,
et je sais que vous reviendrez.
Avec cette force. Et
parce
je reviendrai.
Que vous avez la liberté de le dire et j'ai la liberté de vous répondre. Merci, Jérôme.
Merci à vous.
Merci Jérôme Gage, merci Sonia Mabrouk. Dans un instant, votre club culture, vos signatures Europe 1, à tout de suite.
7h, 9h,
Europe 1 matin.
À tous ceux qui avaient déjà de la barbe au collège.
Excusez-moi, monsieur. Ah, t'es en 6e aussi pardon.
À ceux qui doivent attendre 3 mois pour avoir une barbe de 3 jours. Et à ceux qui se rasent tous les matins en espérant que ça pousse plus vite. Là où il y a du poil, il y a de l'espoir.
Intermarché offre 90% en avantage carte sur le rasoir 360 One Blade plus 3 sabots Philips, soit 2,99€ avantage carte déduit. Et c'est aussi au drive et en livraison.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 25 janvier, 29,99€ prix payé en caisse, réservé aux porteurs de la carte. Modalité et magasin participant sur intermarché.com.
Envie de vous offrir la qualité allemande à prix Opel?
Yes, of course.
Une Corse avec Apple CarPlay et Android Auto?
Yes.
À partir de 15 900€ et jusqu'à 8 ans de garantie spéciale offerte?
Yes.
Rendez-vous en concession pendant les portes ouvertes pour vous offrir Opel Corsa.
Yes.
Offre réservée aux particuliers sur Corsa édition 100 chevaux. 5 000€ déduits non cumulables jusqu'au 31 janvier dans le réseau participant. Garantie spéciale Opel, détails sur opel.fr. Yes égale oui. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Jusqu'au 28 janvier, embarquez pour l'élégance à prix de rêve avec le rendez-vous Air France.
Wow.
Avec Air France, c'est le moment de prendre rendez-vous avec le monde, par exemple Montréal, à partir de 429€ au départ de Paris. S'envoler en toute élégance. Air France.
Tarif TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en soute non inclus, pour des départs du 4 au 15 février 2026 et du 9 au 22 mars 2026.
Europe 1. Il est 8h37 sur Europe 1. Excellent début de journée avec Dimitri Pavlenko jusqu'à 9h.
Dans un instant, votre revue de presse avec Olivier Delagarde. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Les grands titres.
Écoutez, on va parler de ce budget Lecornu avec les perdants et les gagnants.
Emmanuel Ducrot nous rejoindra également, de même que Génie Bastier, à tout de suite. Mais d'abord, votre club culture Europe 1 avec le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Dimitri.
Ce matin, le nouveau roman de Delphine de Vigan.
Oui, toujours très attendu, les romans de Delphine de Vigan. Cette fois, elle s'intéresse à notre vie privée, notre manie de la laisser traîner dans notre activité numérique. Écoutez l'Inkipit. Dernière recherche Google effectuée par Romane Monnier, le 8 mars 2025 à 18h55. La Malice, Bar Bistro, 4,2 étoiles, 345 avis. Bon, je vous fais pas tout, il y a tous les détails taille de la page. Prix moyen, avis divers de Clotilde 78 par exemple, ou Petit Jules 21.
C'est écrit entièrement comme ça.
Non, heureusement, dans ce livre, Je suis Roman Monnier chez Gallimard, à la page d'après, ça ressemble plus au style de Delphine de Vigan, mais tout le roman est émaillé de pages numériques, il y a des SMS, des DM Instagram, des vocaux même. Il s'agit de la fouille en règle du téléphone de Roman Monnier, mais pour l'instant, on s'intéresse à Thomas, la cinquantaine désabusée, pas malheureux mais éteint, dans une phase à quoi bon. La dernière fois qu'il a voulu partir en vacances, il a hésité indéfiniment entre la Grèce et l'Italie, et à force, comme l'âne de Buridan, bah, il n'a rien décidé du tout. Bref, ça va aller, coup de mou, ça arrive. D'ailleurs, son pote Nathan est là, qui lui donne rendez-vous à la Malice, on en parlait justement. Roman Monnier aussi a rendez-vous à la Malice, donc on le sait parce qu'on a lu ses textos échangés avec ce qui ressemble à une date d'appli de rencontre. Pascal, deux points, chemise blanche, veste noire. Et toi, Roman, moi aussi, Pascal. Tu ressembles à la photo, Roman? Bien sûr que non. Pascal, trois points d'interrogation, inquiet.
Comment se fait-il que vous ayez accès aux textos là?
Ça met mal à l'aise. Hein. Bah, ouais. C'est illégal de fouiller le téléphone d'une dame et de quiconque. Et bah, c'est Thomas qui fouille. Le lendemain de la Malice, il cherche son téléphone, mais il ne le trouve pas. Il regarde dans son blouson, enfin. Mais non, en fait, c'est pas le sien. Quelqu'un, la fille juste à côté de lui dans le bar hier soir, sans doute, a dû échanger son téléphone avec le sien par mégarde. Il retourne à la Malice, rien. Il essaye d'appeler son téléphone avec le téléphone de la voisine, rien. Il réessaye encore et encore dans la journée et finalement, quelqu'un décroche. Une jeune femme, elle a le téléphone, elle lui demande son adresse, elle lui dit qu'elle va lui faire déposer le téléphone, mais en revanche, elle refuse de récupérer le sien. Il insiste, c'est non, gardez-le. Et il reçoit une enveloppe avec son téléphone et une carte sur laquelle sont inscrits des chiffres. Ce sont les codes. Pourquoi? Bah, vous verrez. Mais il commence à fouiller et on regarde aussi, bien entendu, c'est un petit côté voyeur, c'est addictif, très précis, drôle parfois, c'est un très très bon Delphine de Vigan.
Voilà, il s'appelle Je suis Roman Monnier, c'est Delphine de Vigan, donc chez Gallimard. Merci beaucoup Nicolas Carreau. Il est 8h40 sur Europe 1.
7h-9h, Europe 1 Matin.
Place à votre première signature Europe 1 du mardi. Bonjour Eugénie Bastier.
Bonjour à tous.
Eugénie, vous nous parlez du vote du budget, ça devrait se faire au 49-3. Aujourd'hui, c'est la clôture d'un interminable marathon budgétaire dont le résultat, vous nous dites, n'est pas très beau à voir. Hein.
Mieux vaut un mauvais budget que pas de budget du tout. Telle est la palissade qu'on nous a serinée depuis septembre dernier. Le chaos, les flammes de l'enfer, la fin de la France, voilà ce qu'on nous promettait si le gouvernement ne pactisait pas avec les socialistes pour sortir le pays de l'impasse. Ce thriller psychologique, aussi passionnant qu'un rapport de la Cour des comptes murmuré en ASMR, va enfin se terminer. Avec finalement, sorti du chapeau, le Deus ex machina français par excellence, eh bien oui, la taxation des entreprises. Et oui, on est d'accord, les entreprises sont les grandes victimes du budget. La facture pourrait tourner autour de 10 milliards d'euros pour le tissu économique. Mais le plus triste, c'est que cette ponction des entreprises, des forces vives du pays, ne sert pas à financer les dépenses d'avenir, mais à financer un budget socialiste et gérontocratique.
Qu'est-ce que vous entendez par là?
J'entends par là un budget uniquement orienté par le vote des retraités et le maintien à tout prix d'un système de retraite par répartition condamné. Plusieurs exemples. Dans le budget de la Sécurité sociale, un choix a été fait. Celui de repousser la majoration des allocations familiales de 14 à 18 ans, dès 2026. Ce qui va coûter aux familles ayant plusieurs ados, notamment les familles modestes. On n'a pas vu beaucoup de députés se battre contre, alors qu'ils se sont tous levés comme un seul homme contre la fin de l'indexation des retraites sur l'inflation. Pourtant, on cotise par le travail pour les allocations familiales, tout comme les retraites. On a également renoncé, bien évidemment, à supprimer l'abattement fiscal de 10% sur les pensions de retraite. Même le remboursement des cures thermales a été préservé. Sans oublier le retour à la retraite à 62 ans, qui, c'est vrai, est demandé par la majorité des Français, mais qui est infinançable et qui grève l'avenir des jeunes générations. Cerise sur le gâteau, l'augmentation de la CSG de 9,6 à 10,6% sur les revenus du capital. Cette hausse va toucher les plans épargne-retraite. Écoutez, réalisez bien, on taxe les retraites de demain pour financer les retraites d'aujourd'hui. On taxe les gens prévoyants, qui épargnent pour leur futur, qu'ils prévoient sombre à juste titre, pour compenser l'imprévoyance de l'État. Qui peut trouver cela juste?
Il y a quand même quelques mesures pour les jeunes dans ce budget, Eugénie. Hein.
Ce budget est un budget pour la jeunesse et pour l'avenir, ose même dire le ministre de l'Éducation. C'est une blague. Aucune réforme d'économie structurelle. L'annulation de la réforme des retraites. 5% de déficit. Un budget pour la recherche en berne. Comment on peut dire que c'est bon pour la jeunesse? La seule mesure concernant la jeunesse, c'est le repas à 1 euro pour les étudiants. Mais là encore, on est dans l'assistanat, pas dans l'encouragement du travail. Les jeunes ne veulent pas une assiette de soupe. Ils veulent un pays qui leur offre encore des opportunités. Nicolas ne veut pas d'alloc. Il veut que son travail paie. Le seul qui a osé s'emparer de ce sujet, c'était François Bayrou. Il avait affirmé, rappelez-vous, en septembre, la dette, c'est l'esclavage des plus jeunes. Après cela, il ne faut pas s'étonner que la natalité s'effondre dans notre pays.
Eh oui, tout est lié, en effet. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie. J'ai hâte d'entendre dans un instant la réponse de Pascal Praud à l'édito de Eugénie Bastier. Emmanuel Ducrot est avec nous aussi, de même qu'Olivier Delagarde, pour sa revue de presse. À tout de suite.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Après 50 ans de mariage, ma femme, c'était mon repère. Autant vous dire qu'à son décès, j'ai été déboussolé. Je ne savais pas vers qui me tourner. Alors j'ai appelé le 32 urgence décès. Un conseiller PFG m'a orienté et puis s'est occupé de tout.
PFG sera toujours à vos côtés. Alors en cas de décès, appelez PFG au 32 pour une prise en charge immédiate de jour comme de nuit. Urgence décès 32, un service PFG.
Bureau Vallée ? Ah non, me mets pas de repos mardi, hein.
Ah bon ?
On reçoit la nouvelle imprimante Epson à réservoir de chez Bureau Vallée. Je vais être la première à la tester, hein.
Oui, enfin, elle sera toujours là mercredi.
La première, j'ai dit.
L'imprimante multifonction jet d'encre Epson EcoTank. 29,50. 3 en 1, impression recto-verso auto est à seulement 289,99€.
Professionnel, démarrez l'année du bon pied avec Bureau Vallée.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Jusqu'au 24 janvier. Conditions et magasins participants sur bureau-vallée.fr.
Cerise nous dit pourquoi on peut compter sur Groupama.
Vous vouliez me voir, François ?
Oui, Cerise. Vous savez, j'ai des projets d'avenir et j'aimerais mettre de l'argent de côté. Mais chez Groupama, c'est pas vraiment votre cœur de métier.
Détrompez-vous. Si on sait assurer votre auto ou votre domicile, nos conseillers vous proposent aussi des solutions d'épargne adaptées à vos projets.
Ah vraiment, Cerise ?
Oui. En plus, en ce moment, jusqu'à 200€ sont offerts pour toute souscription d'un contrat d'assurance vie.
Groupama.
Groupama. Toujours là pour moi.
Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupama.fr.
Chaque jour, Marie pense à sa maman Françoise, 84 ans, qui lui assure être en pleine forme et dit ne pas avoir besoin d'aide. Pourtant, Marie sait bien que Françoise se sent seule et que les semaines sont parfois longues. Marie fait alors appel à Petit-Fils. Et depuis, sa maman se réjouit tous les jours de se promener au bras de son auxiliaire de vie.
Petit-Fils accompagne en douceur les grands-parents dans leur quotidien. Petit-Fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit-Fils.com.
Carrefour.
Chez Carrefour, profitez de 50% de remise immédiate sur le deuxième produit Nutella acheté. Et c'est valable sur tout Nutella. Alors rendez-vous jusqu'au 2 février chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur votre appli Carrefour.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Hors conditionnement promotionnel, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
8h45, vous écoutez Europe 1 matin avec Dimitri Pavlenko.
Et Pascal Praud nous a rejoint, vous le retrouvez de 16h à 18h sur Europe 1. Dans quelques minutes aussi, en codiffusion avec CNews. Bonjour Pascal.
Bonjour, j'ai entendu évidemment Eugénie Bastier et ça ne m'a pas étonné parce que je vois beaucoup de jeunes gens, 25, 30 ans, l'âge de Eugénie, en fait ils nous détestent. Il déteste, les boomers. Il
est non, Pascal, responsable. C'est pas du
mais
tout ça.
Je peux
ça.
Pas vous dire autre chose, je le pense. Parce qu'ils le disent d'ailleurs.
Vraiment,
mais je vous parle pas de vous. Mais je vous dis, jeunes. Mais je parle pas de vous. Les 25-30 ans, tu peux leur dire, on a cotisé, etc. Ils veulent diminuer les pensions des retraites, des gens qui
Ils disent qu'on dénonce juste un système qui est voué à l'échec et qui est en train de gréver notre pays.
Je vous répète, au-delà de ça, je l'ai vu, je suis avec des jeunes gens en permanence, régulièrement. Ils détestent les boomers, ils les considèrent responsables de tout, et ils expliquent que même si tu leur dis on a cotisé, on aura le droit à une retraite, etc., et c'est une fracture générationnelle très importante que je constate. Je ne dis pas vous, je dis globalement, ils ont le sentiment que les gens qui ont 60, de 60 à 90 ans ont plié le pays.
Moi, je crois que c'est pas tout à fait ça le sujet. C'est pas les grands-parents le sujet, c'est la politique menée. Et
je vous dis ce qu'ils pensent.
Ils se disent, ils travaillent. Moi, je fais partie de ceux qui disent, je cotise depuis plus de 20 ans. Aurais-je une retraite publique ? Je n'en sais rien.
Je vous dis ce qu'ils pensent, eux. Et interroger les jeunes gens de 25-30 ans, ils sont sur cette ligne-là.
Bon, vous voyez, ils vous voient à 25 ans, Eugénie. Ils voient... C'est sympa, hein. Merci. Bon, Pascal, merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure. Ce sera un gros débat. C'est un débat sans fin, les retraites en France. Vous le retrouvez cet après-midi, 16h-18h sur Europe 1. Un numéro pour intervenir au standard, Anissa Dadi.
01 80 20 39 21 pour dialoguer avec Pascal Praud tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1.
La revue de presse sur Europe 1 avec Penny Lane. L'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence ce matin avec les grands gagnants du budget Le Cornu.
Oh, qu'il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose.
Eh oui, heureux
comme des socialistes en Macronie. Force est de reconnaître que ce sont les seuls à pouvoir se réjouir ce matin et leur cri de victoire résonne d'un quotidien à l'autre. On a négocié, on a gagné, fanfaronne Pierre Jouvet, le secrétaire général du PS, dans Le Parisien aujourd'hui en France. On est 69 députés socialistes et on a négocié comme si on était 300, exulte l'un d'eux dans la Croix. Et si vous doutez encore de la réalité de cette victoire rose, allez jeter un coup d'œil sur la morgue des Rouges. Long papier dans l'Humanité pour dénoncer les socialistes qui vont sauver la mise du Premier ministre lors du vote de censure. Ce PS qui avait présenté le renoncement 49-3 comme une victoire arrachée de haute lutte, rappelle Cyprien Cadéo, et qui fait désormais le service après-vente de cette option anti-parlementaire.
Mais le plus important n'est pas là, Olivier.
Hein. Non, la guerre des gauches n'a finalement que peu d'importance, Dimitri. Le vrai problème, c'est que ce budget est une catastrophe pour la France. Là-dessus, toute la presse de droite est unanime. À la une de l'opinion, Nicolas Bétou parle même d'un budget de destruction. Destruction de la parole politique de la part de quelqu'un qui avait juré de ne pas utiliser le 49-3. Destruction méthodique de tout ce qu'Emmanuel Macron avait construit lors de son premier quinquennat. Destruction programmée de l'investissement des entreprises et destruction de l'emploi. Parce que le cornu a eu beau affirmer que 99% des entreprises ne seraient pas concernées par la purge fiscale. Dans les échos, Patrick Martin, le patron du MEDEF, lui répond « La France joue avec le feu. Au moment où les États-Unis et l'Allemagne baissent le taux d'imposition des bénéfices, la France les augmente. Les grandes entreprises irriguent tout un tissu de sous-traitants. Il y aura inévitablement des effets collatéraux sur toute l'économie. » Et ne dites pas à Marc Fesneau, le patron du MoDem à l'Assemblée, que ces efforts ne pèsent pas sur les Français. Parce que si ça ne pèse pas sur les Français, ça pèse sur qui, répond-il à l'opinion ? Sur les Américains ? Sur les Japonais ? Quand vous ponctionnez les entreprises françaises, ça pèse sur les Français, ça pèse sur leurs emplois. Quand vous asphyxiez ceux qui essaient de développer des activités, c'est la France que vous fragilisez. Oui, c'est donc la fin de la politique de l'offre, mais c'est surtout la fin de la politique du bon sens, constate amer Gaëtan de Capelle à la une du Figaro. Qu'a prévu le gouvernement ? Davantage de dépenses et davantage d'impôts ? Lorsque l'on détient le record des deux, il fallait y penser. La France aura peut-être un budget, mais elle n'a pas fini de payer ce catastrophique demi-tour.
Attendez, Olivier, tout n'est pas perdu. La droite ne va pas laisser faire une chose pareille.
Vous avez raison, Dimitri. D'ailleurs, j'ai leur numéro, on va les appeler.
Le numéro que vous avez demandé n'est pas en service actuellement. Nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre appel.
Ah, ça.
C'est le plus atterrant dans cette histoire, poursuit l'éditorialiste du Figaro. Les macronistes et la droite LR vont consentir à cette folie. C'est que la droite est gênée aux entournures, signale Le Parisien aujourd'hui en France. Dès le départ, Laurent Wauquiez a dit qu'il ne censurerait pas. Donc la négociation était mal partie avec le cornu, explique un peu amer un proche de Retailleau, qui affirme que les députés de droite ne voulaient pas voter la censure. Mais les sénateurs républicains non plus, souligne Christine Olivier dans l'opinion, une relative mansuétude sénatoriale vis-à-vis de Sébastien Lecornu qui s'explique un peu par l'usure des troupes, mais aussi beaucoup par le geste que le Sénat attend du gouvernement à l'égard des collectivités locales. Celles-ci devraient être largement épargnées par les économies. Bref, tout le monde a eu son cadeau bonus dans ce budget, ironise un sénateur centriste. Sauf peut-être les lecteurs de droite qui voient les roses exultées et les bleus aux abonnés absents.
Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit.
Merci beaucoup, votre revue de presse chaque matin sur Europe 1. Olivier Bleu, Christophe Delagarde, je vous appelle. Bonjour Emmanuel Ducrot. Bah, comment j'allais vous appeler, Valérie, je crois.
Écoutez, allez-y, appelez-moi comme vous voulez. Bonjour Dimitri.
Bonjour Emmanuel. Ce dimanche en Gironde a eu lieu une manifestation contre l'installation d'un élevage de saumon dans des cuves au Verdon-sur-Mer. 700 personnes rassemblées tout de même. Pour vous, cette histoire s'incarne tous les paradoxes français en matière d'alimentation et d'environnement.
Encore une fois, j'allais vous dire, hein, mais sachez que selon la plupart des médias qui ont traité cette manifestation, on ne parle pas d'un élevage de saumon ou de pisciculture, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. On parle d'une méga usine à poissons ou d'une giga aquaferme industrielle. Les mots ont leur importance quand on veut détruire une idée et force est de constater que les militants écologistes qui s'opposent à cet élevage ont gagné cette bataille. Leur expression a été reprise sans le moindre discernement. Personne ne s'intéressera donc au fond du projet qui a pour le mérite de ne pas polluer la mer puisqu'on parle d'élevage dans des cuves avec de l'eau en circuit fermé. Personne ne s'intéressera non plus au problème problème, notre absence totale de souveraineté en produits de la mer et surtout notre refus d'améliorer la situation.
Alors, on entre au cœur du sujet parce qu'en effet, la France, c'est le deuxième domaine maritime au monde et nous sommes totalement dépendants en matière de poissons et de crustacés.
Oui, 90% des poissons et des crustacés consommés dans notre pays sont importés. En 2024, la France a affiché une balance commerciale négative de 4,6 milliards d'euros dans cette catégorie. Incroyable. C'est notre seconde dépendance, la plus importante après le café. Et la facture augmente avec le temps parce qu'on consomme de plus en plus de poissons. Et la France ne réagit pas, en dépit de ses ressources parmi les plus importantes au monde. C'est un incroyable gâchis alors que la liste de nos dépendances alimentaires s'allonge.
Dans cette ardoise, le saumon pèse très lourd. Hein.
Oui, la France est le premier pays consommateur d'Europe. 300 000 tonnes par an et on en produit royalement, tenez-vous bien, 300 tonnes, 0,1% de notre consommation. Tout le reste est importé de Norvège, d'Écosse, d'Alaska ou d'ailleurs. Et mieux, les trois quarts de ces saumons importés sont des saumons d'élevage, ceux qu'on refuse d'élever chez nous, y compris quand l'élevage est donc plus vertueux parce qu'il ne nuit pas au fond marin comme ce serait le cas en Gironde. On se fiche parce qu'on n'en est pas à une contradiction près que l'aquaculture ait aussi considérablement fait baisser la pression sur les écosystèmes sauvages. On pêche moins quand on élève des poissons. Ah oui. Bah peu importe. En France, on n'en veut pas, par principe. On préfère que d'autres fassent le sale boulot, loin de nos yeux, loin de nos indignations.
Mais les opposants à ces élevages de saumon, qu'est-ce qu'ils veulent au fond ?
On ne sait pas. Tout est son contraire. Le saumon, le beurre blanc et le sourire du pêcheur, sans doute. Comme à chaque fois qu'on brandit la bannière environnementale contre le moindre projet économique, c'est la foire aux contradictions et à l'hypocrisie. La question des protéines animales, c'est un cas d'école. Alors, il faut manger moins de viande rouge pour l'environnement, mais on refuse les élevages de volailles. Le poisson, c'est mieux, mais sans pêche et sans élevage. Et puis, on veut du local et du vertueux, mais pas ici, tout en étant contre les importations. Et évidemment, il faut que ça ne soit pas cher. Alors si on finit par pointer toutes les contradictions, on finit par vous répondre, personne n'est obligé d'en manger. Évidemment, c'est beaucoup plus simple comme ça. On noie le poisson, et nous, on n'en finit pas de couler.
Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot, Culture Média, juste pour vous inviter, vous le signalez, Laura Fabian, elle va chanter tout à l'heure en direct dans Culture Média, c'est à partir de 10h. Je vous souhaite une excellente journée. Dans un instant, l'heure des pros sur Europe 1.
Professionnel, vous avez besoin d'un utilitaire pratique et abordable ? Découvrez Citroën Berlingo Van à seulement 159€ hors taxes par mois. Modulable et économique, il s'adapte à toutes vos missions au quotidien. Il est disponible immédiatement en stock limité et bénéficie de jusqu'à 8 ans de garantie offerte. Découvrez également Berlingo Van XTR, notre version suréquipée. Rendez-vous vite dans votre point de vente Citroën.
Citroën.
Crédit bail 60 mois, 100 000 km. Premier loyer de 5 700€ hors taxes. Offre professionnelle jusqu'au 31 janvier si acceptation crédit par. Détails sur citroën.fr.
Jusqu'au 28 janvier, embarquez pour l'élégance à prix de rêve avec le rendez-vous Air France.
Wow.
Avec Air France, c'est le moment de prendre rendez-vous avec le monde, par exemple Dubaï, à partir de 599€ au départ de Paris. S'envoler en toute élégance. Air France.
Tarif TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en soute non inclus pour des départs du 26 janvier au 15 février 2026 et du 9 au 29 mars 2026.
On dit que les histoires d'amour durent 3 ans. Avec Renault Car Service, entre ma voiture et moi, ça va durer bien plus longtemps. Grâce à leur forfait entretien véhicule de plus de 3 ans à 99€. 38 points de contrôle, vidange et remplacement du filtre à huile inclus. Est-ce que ça compte ? En tout cas, ça me donne de bonnes raisons de rester fidèle à Renault Car Service. Pour prolonger la durée de vie de ma voiture, qui mieux que Renault peut entretenir ma Renault ?
Conditions dans réseau Renault participants.
Vos déplacements professionnels ne devraient jamais être un casse-tête. Avec Selectour Affaires, le voyage d'affaires devient un levier de performance. Nous construisons avec vous une politique voyage sur mesure. Coût optimisé, empreinte carbone maîtrisée, sécurité et bien-être des voyageurs. Des consultants dédiés vous accompagnent à chaque étape, de la PME au grand compte. Nos solutions s'adaptent à vos besoins. Selectour Affaires, 50 ans d'expertise au service de vos déplacements professionnels. Rendez-vous sur selectour-affaires.com.
Toyota. Production française qui se vend chaque année comme des petits pains. On dit que je suis fantastique. Je suis...
La baguette ? Le croissant ? Non, la Toyota Yaris Cross Hybride.
Oui, c'est la voiture la plus produite en France.
Et elle n'a jamais été aussi accessible. Pendant les reprises fantastiques, la Toyota Yaris Cross Hybride est à partir de 239€ par mois, entretien inclus. Yaris Cross Hybride dynamique blanc pur à partir de 239€ par mois, LLD 37 mois, 30 000 km, entretien inclus. Premier loyer, 4 390€, réservé aux particuliers dans le réseau participant jusqu'au 2 février sous conditions de reprise. Détails sur toyota.fr. Pensez à covoiturer ?
Europe 1 et CNews, 9h-10h, l'heure des pros.
Pascal Praud.
Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros sur Europe 1 jusqu'à 10h et sur CNews jusqu'à 10h30. Plus d'impôts, plus de dépenses publiques. Ce budget est une catastrophe pour la France, une de plus. Sébastien Lecornu renie ses engagements. Il avait promis qu'il refuserait le 49-3. Mais que vaut la parole de Sébastien Lecornu ? Emmanuel Macron jette à la poubelle sa réforme des retraites. Il valide des impôts, des taxes en plus. Pour les ménages, hausse de la CSG sur le plan épargne-retraite notamment. Pour les entreprises, à qui Emmanuel Macron annonçait une réduction des prélèvements. Mais que vaut la parole d'Emmanuel Macron ? Je croyais que les Républicains défendaient l'investissement dans les entreprises, que l'augmentation des impôts était une ligne rouge. Laurent Wauquiez avait dit censurer un budget qui ferait les poches des Français. Mais que vaut la parole de Laurent Wauquiez. Tout cela est assez triste. Le Parti Socialiste a représenté moins de 2% à la dernière élection présidentielle. Il truste les postes clés de la Ve République. Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Cour des comptes. Et c'est lui, le grand vainqueur, qui sourit. Grand vainqueur de l'avant-dernier budget d'Emmanuel Macron qui retourne là où il est né, à gauche, toute. Le président de la République poursuit une aventure personnelle qu'il l'a mené au sommet de l'État à la suite d'un concours de circonstances qu'il a su utiliser avec habileté. Il rendra la France exsangue, abîmée, fracturée, en marche et devenue en marche funèbre.